À l'occasion de cette béatification du bienheureux Henri Planchat, nous pouvons dire que l'Église est belle, elle est belle de la sainteté de ses membres. C'est cela sa beauté, elle est belle de la présence de Dieu qui vit en elle, hein, l'Esprit Saint étant l'âme de l'Église, mais cette âme, cet Esprit Saint, l'Esprit Saint, eh bien, rayonne de cette beauté, fait rayonner l'Église de sa beauté, l'Église visible de sa beauté, par la sainteté de ses fidèles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, par les événements, par les scandales que nous avons pu entendre malheureusement trop souvent, eh bien, nous fait regarder l'Église davantage sous l'orientation plus des infidélités des fidèles, de l'infidélité de ceux qui trahissent profondément le Seigneur. Et après, ça a comme conséquence qu'on regarde l'Église plus dans le côté plus d'organisation structurelle de l'Église, hein, d'une organisation, d'une société visible, comme une association, et on perd de vue sa dimension surnaturelle, et que le but de l'Église, c'est de donner l'Évangile au monde, et de donner, et ceux qui accueillent cet Évangile, qu'ils deviennent des saints. Le bienheureux Planchat, comme tous les saints, eh bien, sa caractéristique, c'est qu'il a vraiment considéré comme Jésus comme étant la porte vers le ciel, l'unique porte. Et en cela, chacun, nous pouvons nous interroger, nous interpeller personnellement, quel est comment Jésus est considéré dans ma vie? Est-ce qu'il est vraiment la porte qui nous donne l'unique chemin, le chemin de vie et le chemin de vie éternelle, qui est l'unique moyen pour pouvoir transformer le monde? C'est en passant par cette porte qu'on transforme le monde. On y passe par la foi, on y passe par le baptême, et en cela, le Saint Concile Vatican II a rappelé justement que l'appel à la sainteté est lié à l'appel au baptême, est lié à notre baptême. Et il nous faut des saints dans toutes les vocations de l'Église. Le bienheureux Planchat a commencé à découvrir le service des pauvres, et sa vocation sacerdotale a pu s'épanouir parce qu'il avait participé à la société Saint-Vincent de Paul, qui elle-même avait été fondue par un saint laïc, le bienheureux Frédéric Ozanam. Nous avons sur notre paroisse, comme saint patron, saint Louis, qui certes était roi, mais ce n'est pas pour cela qu'il est saint. Il est saint parce que c'était un laïc qui a répondu à son appel à la sainteté dans sa vocation spécifique de roi, mais il aurait pu être saint, il n'aurait peut-être pas été canonisé, mais il aurait pu être saint dans une autre circonstance. Hein, les canonisations, c'est juste pour montrer, c'est la phase visible de l'iceberg, hein, de la sainteté dans l'Église. Mais on peut être saint sans être canonisé, rassurez-vous, hein, ce n'est pas l'objectif, mais par contre, être saint, c'est l'objectif. C'est notre objectif. Et donc des saints laïcs, il en faut. Saint Louis et Zélie Martin, que j'ai tenu à mettre en valeur il y a déjà quelques années, sont des saints laïcs aussi, qui sont des modèles, qui sont encore une fois comme la face visible de l'iceberg, pour nous rappeler notre appel à la sainteté. L'Église est belle par la sainteté, et l'Église fait son travail grâce à la sainteté des fidèles, pas d'une autre manière. Pas parce qu'on fait des super organisations, des super rassemblements, des super conférences, je ne sais quoi. Non, tout cela, c'est rien. C'est vanité. C'est vanité. Ça disparaîtra. On n'en parlera plus dans quelques années. Non, la sainteté, c'est seulement la sainteté qui transforme le monde et qui évangélise. Il faut de la sainteté dans toutes les vocations. La sainteté dans la vie des gens mariés, des célibataires qui n'ont pas... le célibat non choisi. Mais il faut aussi des saintetés dans les autres vocations. Mais pour qu'il y ait de la sainteté dans les autres vocations, il faut qu'il y ait des vocations à chaque génération. Or, aujourd'hui, nous assistons dans notre Église, dans nos régions, mais actuellement même presque dans l'Église universelle, nous assistons à une sorte d'affaiblissement des vocations, une sorte de refroidissement, je ne sais pas comment l'interpréter, comment le comprendre, comment l'expliquer, je veux dire. Mais en tout cas, c'est très important, ne plus avoir de vocation telle que la vocation à être prêtre ou la vocation à la vie religieuse, c'est un très 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 mauvais signe pour le catholicisme. Alors il y en a, hein, mais pas assez. Alors il y a de multiples raisons à cela. Je vous dis qu'il y a des explications. Hein. C'est notre monde qui change. La première raison, c'est qu'on ne prie pas assez pour cela. Jésus le dit clairement, hein, prier pour envoyer des ouvriers à sa moisson. Donc ça fait partie des commandements clairs du Seigneur. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de vocation. Deuxième raison, c'est qu'il nous faut envisager non pas la vocation pour les autres, mais la vocation pour nous-mêmes et pour nos proches. Il nous faut prier pour les vocations dans nos familles, dans nos communautés, dans notre entourage. C'est quelque chose de terrible et c'est signe d'une mondanisation de notre foi catholique. C'est-à-dire qu'on vit selon le monde, on dit qu'on est chrétien, mais on vit selon le monde en fait, selon les règles du monde. C'est de se dire, être prêtre, être consacré... C'est pas moi. Être prêtre, être consacré n'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan pour mes enfants, pas un bon plan pour ma famille. Voilà. C'est quelque chose de terrible, mais c'est trop courant malheureusement. Hein, ça peut habiter notre cœur. Hein, alors on peut se convertir, donc c'est jamais perdu. Mais en tout cas, c'est une affaire très importante. Le regard que l'on porte sur la vie consacrée et sur l'appel à la vocation sacerdotale, et c'est vrai qu'encore une fois, hein, le démon attaque particulièrement ses vocations, il souhaite qu'il n'y ait plus de ce type de vocation, clairement, et donc il attaque, et aujourd'hui sont révélés des scandales que le... Enfin voilà, il faut le faire, hein, mais en même temps, voilà, le démon se frotte les mains. Hein, il savait, il y a quelques années, qu'en faisant chuter telle ou telle personne, il pourrait nuire profondément à l'Évangile, à l'Église et aux vocations. Il nous faut donc convertir notre regard. Et plutôt que regarder, se fixer sur ceux qui ont été infidèles, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les choses en face, hein, il faut regarder le réel, mais plutôt que faire que cela, se concentrer comme certains journaux peuvent le faire actuellement, eh bien regardons les saints. Regardons ceux qui ont bien vécu leur vocation. Il y en a de nombreux, dans toutes les vocations. Mais dans les vocations de prêtres et de religieux, il y en a de nombreux. Et donc, le bienheureux Planchin en est un bel exemple, hein, à la fois dans sa vocation de prêtre et de religieux. Il a assumé cette vocation de tout son cœur. Lui, il est un peu le modèle du prêtre, comme nous présente un peu notre pape François. Hein, un prêtre qui est venu plutôt qui avait une origine plutôt de parents assez aisés, confortables, et qui a choisi de se mettre au service de tous, et en particulier des plus pauvres, hein, dans les quartiers les plus défavorisés, où il y avait même de l'anticléricalisme qui aurait pu l'empêcher d'y aller. Eh bien non, il est allé vers eux. Il les a aimés, comme Jésus les a aimés, comme le bon pasteur. Il les a aimés, il les a servis, il les a éduqués, il les a catéchisés, il a régularisé de nombreux mariages qui ne pouvaient être célébrés dans ces milieux défavorisés. Ensuite, il s'est mis au service, alors que la guerre civile éclatait en France, il s'est mis au service de ceux qui guerroyaient, et il a servi les blessés, il a mis en place une ambulance. Il s'est mis au service de leur humanité et il s'est mis au service aussi de leur spiritualité en les éduquant, en les catéchisant eux aussi. Ça, c'est ce qui a valu beaucoup d'animosité autour de lui. Parce que ce type de bien, quand on fait le bien de façon aussi radicale, évidemment que ceux qui ne veulent pas la paix, ceux qui ne veulent pas le bien fondamentalement, mais qui sont en service d'idéologie, qui sont perdus aussi, eh bien, eux sont, et puis le démon aussi, bien sûr, sont furieux, et donc il va être, on va l'intimider, on va chercher à l'intimider, sans succès, on va venir essayer de lui faire peur, sans succès, et il va continuer à servir, il va être donc emprisonné un jeudi saint, hein, qui correspondait à la même date que cette année, pour être en prison et être fusillé le 26 mai 1871, à 48 ans, rue Axou. Voilà, le père Planchat, l'image du prêtre. Comme parle le pape François, né de milieux favorisés, il a tout quitté pour vivre avec et comme les pauvres. Comme le Christ, il a versé son sang injustement, mais sans jamais condamner ses agresseurs. Ça, c'est vraiment une caractéristique du saint, c'est que jamais il en veut à personne, même quand on le persécute. C'est comme ça qu'on peut savoir si on a un petit peu progressé en sainteté. Comment je considère mes ennemis? Comment ça va? Eh bien, voilà. Sa dernière parole, avant de mourir, alors qu'il avait déjà été atteint de plusieurs balles, ça a été de dire « Laissez-moi prier ». Ça aussi, c'est caractéristique du saint. Il se tourne vers le Seigneur, il sait que c'est là le pasteur, le bien suprême, c'est le Seigneur, c'est lui notre pasteur, c'est lui qui guide nos vies. Et le pape Benoît XVI, le pape François, dans sa lettre apostolique de béatification, que vous pourrez voir, elle est en latin, donc ceux qui, les latinistes vont pouvoir s'exercer, elle est affichée au fond de l'église. Dans sa lettre, il qualifiera le bienheureux Henri Planchat de père des pauvres et d'infatigable évangélisateur. Des beaux titres, en tout cas, je trouve que c'est un beau titre pour ce bienheureux, ce nouveau bienheureux. Donc regardons ce type de sainteté, ce saint prêtre, beau modèle de prêtre, et prions pour que il y ait de nombreux prêtres dans nos familles, dans nos entourages, qu'il y ait de nombreuses vocations qui donnent leur vie totalement. Voilà, il était aussi consacré, mais c'est vrai qu'hier nous fêtions aussi une sainte, une consacrée, c'est Sainte Catherine de Sienne, qui a vécu à une période très troublée de l'histoire de l'Église. Et il me plaît de vous la présenter pour dire là aussi, dans la vie consacrée, hein, cette jeune femme qui ne savait ni lire ni écrire, qui apprendra avec peine à écrire à l'âge adulte, eh bien, Catherine de Sienne, née à Sienne donc, en 1347, mourra à 33 ans en 1380. Et dans toute cette période, par la radicalité du don d'elle-même, par sa spiritualité, sa profondeur spirituelle, par le don d'elle-même, par sa vie mystique, eh bien, elle va toucher énormément de gens et elle influencera par son humilité. Elle aura une grande influence sur le monde de son époque, sur l'Église, sur l'Europe même tout entière. Elle facilitera la paix en certaines régions en conflit. Elle aidera l'unité de l'Église. Elle encouragera le pape de partir d'Avignon, puisqu'il était à Avignon, pour revenir à Rome. C'est ce qu'il fera pendant la présence de Sainte Catherine de Sienne. Et c'est grâce à elle qu'il va retourner à Rome, même s'il y avait des craintes en retournant à Rome d'être tué, hein, d'être attaqué. Voilà. Cette petite figure, Sainte Catherine de Sienne, qui est désormais docteur de l'Église à travers ses écrits, patronne de l'Europe par le pape Saint Jean-Paul II, eh bien, montre combien la vie consacrée peut porter un fruit. Ça, encore une fois, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais n'oublions pas le reste. Tout ce qui ne se voit pas. S'il n'y avait pas le reste, il n'y aurait pas la partie visible de l'iceberg. Mais donc Sainte Catherine de Sienne nous montre l'importance de la vie consacrée. Une église sans vie consacrée est une église en train de mourir, qui se mondanise et qui disparaît. Là encore, nos régions sont en crise à ce niveau-là. Nous devons prier et demander qu'il y ait de la vie consacrée dans nos familles, dans notre entourage. Et que nous aimions ces vocations, que ce soit la vocation de prêtre comme la vocation de consacré. Voilà, je vois que j'ai déjà été long, donc je vous invite à prier donc pour les vocations aujourd'hui de façon particulière. Prions par l'intercession du bienheureux Henri Planchat. Amen.